Surmonter les périodes difficiles. Première partie par Peter Amsterdam. Notre monde a été profondément bouleversé à bien des égards au début de l'année 2020. La pandémie a créé des situations et des défis qui ont mis notre foi à l'épreuve d'une manière nouvelle et ont souvent suscité des émotions que nous n'avions probablement pas l'habitude de ressentir pendant des périodes aussi longues. Voici quelques-uns des facteurs auxquels tout le monde a dû faire face à des degrés divers. Une perte de contrôle. Vous avez peut-être eu l'impression qu'on vous avait coupé l'herbe sous le pied. C'était une situation tout à fait imprévue et vous ne pouviez pas faire grand-chose pour vous y préparer. Les circonstances vous ont ébranlé. Les restrictions étaient larges et d'une grande portée et elles échappaient totalement à votre contrôle. La peur de l'inconnu. Vous avez peut-être craint de contracter la maladie ou de perdre un être cher. Pas un jour ne passait sans que des informations quotidiennes et incessantes, la distanciation sociale requise et l'obligation de porter un masque vous rappellent la menace qui pesait sur vous. Des projets ont été contrariés. Tout s'est arrêté pendant de longues périodes, ce qui a affecté les voyages, les déménagements, le bon déroulement de vos activités missionnaires, les projets de visite à vos familles ou une nouvelle carrière. Des entreprises ont fermé et beaucoup d'entre elles n'ont jamais rouvert. Des millions de personnes ont perdu leur emploi et par conséquent les moyens de subvenir aux besoins de leur famille. Si de nombreuses entreprises ont rouvert leurs portes et que des emplois sont à nouveau disponibles dans certains secteurs d'activité, ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs. Les enfants et les adolescents ont subi un préjudice important du fait que les écoles ont été fermées et que les cours ont été en grande partie dispensés en ligne. Les enfants se sont retrouvés isolés de leurs amis et n'ont pas pu participer à des activités ni faire de sport. Et les parents ont souvent été obligés de concilier le travail à domicile avec la nécessité de s'occuper de leurs enfants et de leur éducation à plein temps à la maison. Beaucoup de gens sont tombés gravement malades et beaucoup sont morts. Certains d'entre vous ont contracté le virus et ont été très malades, ou même hospitalisés et placés en soins intensifs. Certains d'entre vous ont eu des proches hospitalisés et vous n'avez pas pu leur rendre visite. D'autres ont perdu un être cher et vous n'avez pas pu le voir, prier avec lui ou lui dire au revoir. C'était vraiment déchirant. Des funérailles n'ont pas pu être organisées en raison des restrictions limitant les rassemblements de personnes. Le sentiment d'incertitude était très stressant, du fait qu'on ne savait pas combien de temps ces restrictions allaient durer. Alors que je priais et que j'interrogeais le Seigneur sur ce que nous avons vécu, j'ai pensé qu'il serait utile de voir ce que nous pouvions apprendre de cette expérience et des défis uniques auxquels nous avons été confrontés. J'ai pensé que le Seigneur devait avoir beaucoup de choses à nous enseigner de cette période, en vertu de sa merveilleuse promesse selon laquelle Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Romains chapitre 8, verset 28. Bien entendu, cela ne veut pas dire que la pandémie, les difficultés et les tragédies qu'elle a occasionnées étaient bonnes en elles-mêmes. Mais les épreuves, les tragédies et les pertes que nous avons subies peuvent contribuer à notre bien si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, si nous le suivons, et que nous permettons au Saint-Esprit d'intervenir dans notre vie pour réaliser son plan. Quand je priais à ce sujet, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en dépit de tout ce que nous avons enduré, en dépit de la difficulté, en dépit de ce que nous avons subi ou perdu, par sa grâce, nous pouvons continuer à faire confiance au Seigneur. Nous pouvons lui faire confiance de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Nous pouvons le reconnaître et nous soumettre à lui dans tout ce que nous faisons, et il guidera nos pas. Je dois admettre qu'il est beaucoup plus facile de faire confiance au Seigneur lorsque tout va bien, lorsque nous sommes en bonne santé, que nous avons ce dont nous avons besoin, et que nous-mêmes et nos proches sommes en sécurité et à l'abri du danger. Mais quand ça va mal, c'est beaucoup plus difficile de faire confiance au Seigneur, comme en témoigne l'histoire de Job. La tentation est grande de s'inquiéter, de stresser, de se plaindre, de travailler plus dur pour essayer de régler le problème par tous les moyens possibles. Mais nous savons tous que ce n'est pas la solution. Lorsque notre foi est soumise à rude épreuve, comme ce fut le cas de Job, il nous incombe de mettre notre vie, nos proches, notre santé et nos moyens de subsistance entre les mains de Dieu et d'avoir confiance qu'il prendra bien soin de nous. Même lorsqu'on a l'impression que le Seigneur est silencieux et que les épreuves paraissent interminables ou que les pertes que nous subissons sont terribles, l'histoire de Job nous rappelle que Dieu est fidèle et plein de miséricorde et que jamais il ne nous quittera ni ne nous abandonnera. Voici un message émouvant du regretté révérend Billy Graham à ce sujet. C'est facile de croire que Dieu nous aime et qu'il s'intéresse à nous lorsque tout va bien, mais lorsque la vie prend une tournure tragique, il est beaucoup plus difficile de croire qu'il veut notre bien. Pourquoi devrions-nous continuer à faire confiance à Dieu, même lorsqu'apparemment rien ne change et qu'il n'a pas l'air de nous écouter? L'une des raisons est que, même si de nombreux changements sont survenus dans notre vie, Dieu n'a pas changé. Ce que dit la Bible est vrai. « Moi, le Seigneur, je ne change pas. » Malachie, chapitre 3, verset 6. Et si Dieu ne change pas, cela signifie que ses promesses ne change pas non plus. Dans le passé, il a promis d'être avec nous, et c'est toujours le cas. Dans le passé, il a promis de nous guider, et il continuera de le faire. Familiarisez-vous avec ses promesses, étudiez ses promesses, croyez ses promesses, et fiez-vous à ses promesses. Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses dans la Bible. Ne laissez pas votre foi être vaincue par les circonstances. Au contraire, faites en sorte que les circonstances soient vaincues par votre foi. Nous pouvons aussi prendre exemple sur le prophète Habacuc. Le mal sévissait à son époque et l'avenir n'était pas brillant. De fait, la situation d'Habacuc était plutôt déprimante. Il n'avait pas de figues, pas de raisins, pas d'olives, pas de récoltes, pas de brebis ni de bétail. Mais en dépit de ces circonstances éprouvantes, il proclamait sa confiance en Dieu. Non seulement il faisait confiance à Dieu, mais il se réjouissait, il était joyeux. Car le figuier ne bourgeonnera plus, et il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, les bœufs de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 19. Quelle formidable déclaration de foi! Examinons cela de plus près et voyons ce qu'Habacuc peut nous enseigner sur la confiance en Dieu. Tout d'abord, Habacuc s'engage à louer Dieu quelles que soient les circonstances. Le début de son hymne dépeint une catastrophe, mais après cette description sinistre, le prophète déclare « C'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir ». La joie d'Habacuc ne dépendait pas de bénédictions matérielles. Même si Habacuc avait subi de lourdes pertes, il était bien décidé à louer Dieu. Habacuc se souvenait des bontés passées de Dieu et il en concluait que Dieu était digne de louange. Le prophète manquerait peut-être d'olives et de raisins, des besoins alimentaires de base, mais il ne serait jamais privé de Dieu. Deuxièmement, Habacuc loue Dieu expressément pour le salut. « J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. » Non seulement Dieu peut sauver, mais Dieu est le salut. Troisièmement, Habacuc reconnaît que sa force lui vient du Seigneur. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. La réalité de la force bien présente de Dieu incitait Habacuc à lui faire confiance même dans les moments les plus difficiles. Comme Habacuc, nous pouvons décider de louer Dieu même en pleine désolation. Comme Habacuc, nous pouvons louer Dieu pour le salut qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Et puisque Dieu est la source de notre force, nous pouvons, comme Habacuc, nous fier aux promesses de Dieu. C'est tellement encourageant de se dire que même lorsque nos besoins les plus élémentaires, tels que la nourriture et le logement, ne sont pas garantis, nous avons toujours Dieu. Il ne nous laissera jamais tomber et ne nous abandonnera jamais. Nous pouvons lui faire confiance même dans les situations les plus graves. Je sais que beaucoup d'entre vous ont traversé des moments particulièrement difficiles. Je tiens à vous assurer que Maria et moi prions de tout cœur pour vous. Nous sommes convaincus que, dès lors que vous faites confiance au Seigneur et que vous vous attendez patiemment à lui, il vous fortifiera, il vous bénira, il pourvoira à vos besoins et vous guidera dans sa volonté. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Deutéronome, chapitre 31, verset 8.